Alors, ce qui est incroyable, ce qui est génial avec les psaumes de David, parce que c'est David qui a écrit ce psaume, c'est que à travers la Bible, notamment en Samuel, on a les histoires, on raconte de manière un peu narrative les histoires de David, et après dans les psaumes, on a le cri du cœur de David. On peut parfois entendre comment lui il vivait ses émotions, comment lui il vivait des situations. Et là, on a un chant. C'est marqué sur instrument à cordes. Alors, je voulais juste faire un petit truc vite fait. Donc, je prends au hasard un chant. Pourquoi est-ce qu'on chante à l'église? C'est parce qu'on partage nos cœurs, on partage nos émotions. Si je viens et je lis un chant, je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. C'est beau. On exprime quelque chose de profond, de beau. Mais il y a des choses qu'on peut exprimer dans le chant, qui viennent du plus profond de nous-mêmes. Et ici, on a un psaume qui est non seulement chanté, mais elle est criée. Elle est criée. C'est le chant du cœur de David. Alors on suppose que ce chant a été écrit et chanté lorsque Absalom a pris le royaume de David. Le propre fils de David a fait un coup d'état. Il a envoyé loin de Jérusalem du temple. On suppose, mais on ne sait pas pour sûr, et c'est peut-être mieux. Parce que ce cri, c'est un cri qui peut venir à n'importe quel moment de séparation, dans n'importe quel moment où on a le cœur abattu. On suppose que la situation, c'est une situation de souffrance extrême. Il perd le trône par un coup d'état de son propre fils, Absalom, qu'il aime. Et il est exilé, il est envoyé loin de Jérusalem, loin du temple de Dieu, loin de la présence de Dieu avec le peuple d'Israël. Alors j'ai une question et je connais déjà la réponse, au moins à cause du confinement et du fait qu'on ne pouvait pas se rassembler physiquement ensemble. Mais qui se sent parfois loin de Dieu? Qui se sent parfois loin de la communauté fraternelle? Qui se sent parfois le cœur abattu? Tout le monde, je pense. C'est pas la peine qu'on lève les bras. David, l'ancêtre de Jésus, dit du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Du bout de la terre. Il est loin de Jérusalem, il est loin du temple, il est loin de la présence de Dieu, il est exilé. Il languit de Dieu. Plus loin dans le verset 5, il dit « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. » Mais il est loin, il est exilé. Il se sent au bout de la terre. Et de plus, il a le cœur abattu. Et qu'est-ce qu'il fait, David? Il crie à Dieu. Et les deux points que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est crier à Dieu de n'importe où vous vous trouvez, c'est-à-dire physiquement, mais aussi au niveau de votre cœur, au niveau de votre esprit. Si vous vous sentez loin de Dieu, criez quand même à lui. Et deuxièmement, transformez votre souffrance en louange. Et on va voir ici, si vous regardez le psaume, la première verset, « Oh Dieu, je crie !» Il commence par un cri. Et le dernier verset, « Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. » Le psaume commence par un cri, le cœur lourd, séparé de Dieu, et ça finit par une promesse de louange. Et on va voir le processus aujourd'hui de comment David est passé de ce cri à ces belles louanges. Ce qui m'a emmené à choisir ce psaume aujourd'hui, c'est l'image de cette église. Et je pense notamment à Joël et Martine, à Pascal, l'équipe qui cherchait ce bâtiment. Et vous connaissez tous l'histoire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez la souffrance, les cris du cœur qu'il y a eu quand on n'avait plus le bâtiment. Même si on sait tous que le bâtiment, ce n'est pas l'église, c'est nous l'église. Mais il y avait cette souffrance, on n'avait pas ce lieu où se rassembler. Et on ne comprenait pas. On était face à des situations incroyables qui bloquaient. Des situations qui bloquaient des permis de construire, refusés pour des histoires d'assurance, des portes qui se fermaient par-ci, par-là, des choses qui avaient l'impression parfaites. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici, en communauté, mais aussi des individus. On a crié à Dieu. On ne comprenait pas. Et aujourd'hui, ce matin, c'est beau parce qu'on a loué ensemble dans ces lieux et de cette souffrance est sortie une louange. Et mon espoir pour cette église, ma prière pour cette église, pour ce lieu, comme l'a dit Gérard avant, qu'il soit consacré à Dieu, à la communauté, au fait de venir et louer Dieu ensemble. Donc criez à Dieu de n'importe où vous êtes. Si vous avez le cœur abattu, si vous vous sentez loin de Dieu, criez à lui. Comme Jésus nous apprend à le prier, adressez votre prière à Dieu. Il le dit, ô Dieu, ô Dieu qui est notre Père qui est aux cieux, sachez à qui vous priez. C'est, quand on est loin de Dieu, une prière, ce n'est pas juste exprimer son mécontentement, on l'adresse, on crie à quelqu'un, on crie à Dieu. Écoute, sois attentif. Il supplie Dieu. Interviens, s'il te plaît. Il commence comme ça. Entends le cri de mon cœur. Et qu'est-ce qu'il demande ? Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Quelle image ! Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait un peu d'escalade ? Moi, j'en ai fait très peu. Mais suffisamment pour savoir, pour comprendre un peu cette image. En plus, je suis grand, mais quand il y a un rocher qu'on n'arrive pas à atteindre, on est coincé sur la mur. On est coincé. Notre vie en dépend peut-être. Il y a même des techniques incroyables qui sont mises en place. Parfois, les gens en escalade, ils sautent pour attraper cette prise, ce rocher qui est hors d'atteinte. Mais là, David, il est conscient de ses limites. Il est conscient qu'il est face à une situation, on ne sait pas exactement laquelle, mais où le rocher est trop loin, elle est hors d'atteinte. Il n'arrive pas à l'attraper. Il n'arrive pas de ses propres forces, il n'arrive pas de lui-même. Il est dans une situation impossible pour lui. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il dit, Dieu, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas de moi que je vais sortir de cette situation. Je suis loin de ton temple, je suis loin de toi, je suis loin de mon trône, peut-être. Ou si c'était une autre situation, j'ai péché contre toi et tu es avec. On sait à quel point il a crié lorsqu'il a péché, à quel point il a crié à Dieu quand il a péché avec Bathsheba. À quel point il a crié à Dieu. Il était loin de lui et pourtant il crie à Dieu. Ce qu'il veut, c'est séjourner dans les parvis du Seigneur. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Je veux être avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi, Dieu. C'est de ça qui languit. Je crois que c'est le mot. Une volonté profonde, une envie profonde. Il est séparé de son Dieu. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Le péché les a séparés de Dieu. Ils avaient cette sensation de... Ils se sont séparés de Dieu, ils se sont cachés. Mais là, David fait l'inverse. Il crie à Dieu. Je suis loin de toi, je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Le péché nous dit, cache-toi, aie honte. Cache-toi de Dieu, pars. Tu n'es pas digne, et c'est vrai qu'on n'est pas digne, mais en Jésus-Christ, on peut crier à Dieu, on peut venir à lui. Donc, crier à Dieu n'importe où vous êtes. Et je pense parfois que quand on est loin de Dieu ou quand on se sent, parce qu'on n'est pas loin de Dieu, mais quand on se sent loin de Dieu, quand on a le cœur qui ne regarde pas vers lui, mais autre part, quand on est face à des situations qui nous dépassent complètement, des épreuves qu'on ne comprend pas, on sait à quel point on a besoin de lui. C'est parfois mis en exergue. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment. Parce que souvent, quand on a l'impression que tout va bien, Dieu, tout est parfait, on peut se perdre dans le... Mais où que vous soyez, criez à Dieu. Transformez votre souffrance en louange. Donc on part d'une situation de souffrance, le cœur abattu, loin, il est aux extrémités de la terre. Et David s'est rendu compte de son besoin extrême de Dieu. Et il prie, il crie à Dieu. Et qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il crie? Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Qu'est-ce qu'il prie à Dieu? C'est incroyable. Il est loin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Il prie avec foi. Il dit pas, tu étais pour moi un refuge, une tour forte. Il est exilé. Il est loin du temple, du tabernacle, de la tente de Dieu. Et il dit toutes ces choses, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Car, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Il y a 2 minutes, il disait, sois attentive, entends. Et là, il affirme des choses. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Là, David, dans cette situation, prie avec foi. On connaît tous Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, David, il est dans une situation où les circonstances de la vie ne lui permettent pas de voir qu'il va éternellement être sur le trône. Sa descendance ne lui permettent pas de voir qu'il peut être proche de Dieu parce qu'il est aux extrémités de la terre. Il n'est pas sur son trône. Mais pourtant, il prie avec foi. Et sur quoi il base cette foi? Il base cette foi sur ce qu'il connaît de Dieu. Quand on connaît l'histoire de David, encore une fois, combien de fois est-ce que Dieu a été un refuge pour lui? Une tour de garde, une forteresse? Combien de fois quand il, dans sa jeunesse, il se battait contre les lions et les ours, quand il a combattu Goliath, je peux continuer longtemps. quand il a fui Saul. On connaît tous tellement bien ces histoires, mais c'est pour une raison. C'est parce que Dieu a pris soin de David. Et c'est beau, dans des situations impossibles. Et là, encore une fois, David prie avec foi. Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Et enfin, ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. De qui est-ce qu'il parle là? Il parle de la promesse que Dieu lui a faite dans 2 Samuel 7. Au verset 12. Quand tes jours, donc c'est Dieu qui parle à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Quelle promesse! Moi, ça me fait penser à Abraham et à quel point il avait foi dans la promesse de Dieu alors que Sarah était âgée. Là, David, il a foi en cette promesse alors qu'on vient de lui retirer le trône par son propre fils bien-aimé. On lui a retiré, on l'a rejeté, mais il affirme la promesse que Dieu a pour lui. Alors ma question pour chacun d'entre nous, quelle promesse est-ce que nous, on peut affirmer dans nos vies? Quand tout va mal, quand on voit pas, quand nos circonstances sont pas celles qu'on imaginait, quand même ce sont des circonstances qui nous mènent à la souffrance, à une douleur, à une séparation, qu'est-ce qu'on peut affirmer? On peut affirmer tout en Jésus-Christ. La réalisation de cette prophétie. On a notre vie en Jésus. On est digne de prier ce psaume qui dit quand même « Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ». Pourquoi on est digne de prier ça? De dire à Dieu, même si on est imparfait, même si parfois on agit sans craindre réellement Dieu, pourquoi on peut affirmer « Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom » ? Parce qu'on peut l'affirmer en Jésus-Christ, parce qu'il a fait pour nous à la croix. Dieu nous regarde à travers Jésus. On est l'épouse. On a la vie en lui. C'est pas nos propres forces. C'est Jésus qui nous permet de monter sur ce rocher qu'on peut pas atteindre. Donc David affirme plusieurs choses. Il rappelle qui est Dieu pour lui, une forteresse. Ce qu'il fait pour lui. Tu exauces mes vœux. Et quelles sont ses promesses pour lui? Une promesse de la promesse de Jésus, la promesse d'un règne éternel, même si ce qu'il voit, c'est pas la réalité. Et c'est tellement un message fort pour nous aujourd'hui, je pense, parce que Jésus a vaincu la mort, c'est une promesse, mais pourtant ma grand-mère est décédée il y a un mois. Pourtant on fait face à des souffrances, on fait face à la mort dans le péché, dans nos vies, mais pourtant on a cette promesse que Jésus a vaincu la mort. Et même si on ne voit pas, prions avec foi, acclamons avec foi, et transformons nos souffrances en louanges. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. C'est Dieu. Je ne sais pas dans vos vies, mais je sais que dans ma vie, à plusieurs reprises, dans le couple, mais aussi dans ma vie personnelle, mes plus belles louanges sortaient de moments où littéralement mon cœur a été mis à nu, où j'étais écorché vif, soit par le péché que j'ai pu commettre dans ma vie, soit par des situations de vie que je ne comprenais pas. Mais c'est dans ces moments où on a tellement conscience qu'on n'arrive pas à atteindre le rocher au-dessus. On a tellement conscience d'à quel point on est loin de Dieu et qu'on a besoin de lui, à quel point on a besoin de sa présence, que quand on arrive dans la louange, et c'est peut-être un peu l'image de ce matin, comme c'est beau d'entendre ce louange commun, ce moment ensemble, où nos voix se réunissent et on partage des émotions et on partage des vérités, on affirme des choses par rapport aux promesses de Dieu. Alors que peut-être devant l'écran Zoom, et j'en suis désolé pour ceux qui sont devant le Zoom, mais je vous souhaite de pouvoir louer, et je vous encourage, ce message est pour vous aussi, criez à Dieu de là où vous êtes. Mais c'est beau, c'est les meilleures, c'est les plus belles louanges. Parce qu'elles sont sincères, elles sont honnêtes. On se rend un petit peu plus compte que d'habitude, un tout petit peu plus, parce que même ce ressenti, il est faible par rapport à quel point on a besoin de Dieu, à quel point il est digne de nos louanges, à quel point on se rend un tout petit peu plus compte que d'habitude. Donc pour finir, et ça va, je suis avant les 11h30, je veux vous encourager, criez à Dieu là où vous êtes. Si vous êtes loin de lui, si vous êtes proche de lui, si vous êtes géographiquement au bout de la terre ou au centre de Jérusalem, dans le temple, même si c'est, je ne sais pas si c'est le centre de la terre, mais même si vous êtes Dieu, Jésus, on est comme l'a pris avant, nous sommes le temple de Jésus-Christ, il est avec nous là où on va. Donc criez à lui où que vous soyez. Et finalement, transformez vos souffrances. Transformez ce cœur lourd en louange. Affermissez les promesses de Dieu. Raccrochez-vous à ça. Priez avec foi. Louez avec foi. Amen.